Bien, je pense d'abord que le fait que le cardinal secrétaire d'État soit le signataire de la lettre adressée au prince Ghazi, au nom du Saint-Père, est déjà le signe de la grande considération que Sa Sainteté accorde à cette lettre ouverte, une parole commune entre nous et vous. C'est un point important à souligner. Ensuite, évidemment, ce que nous souhaitons tous, c'est que cette lettre ouverte soit le départ de quelque chose, d'un processus de dialogue, disons, un peu plus profond, un peu plus prégnant pour l'avenir du dialogue interreligieux entre islam et christianisme. Alors le Saint-Père réaffirme justement l'importance de ce dialogue qui doit se baser sur le respect effectif de la dignité de la personne, sur la connaissance de la religion de l'autre, sur l'échange de l'expérience religieuse et sur, dans le fond, la tolérance mutuelle en ce qui concerne la liberté de religion. Donc je crois qu'effectivement, c'est le socle sur lequel doit reposer ce dialogue interreligieux.
Donc Benoît XVI se dit prêt à rencontrer un certain nombre de dignitaires musulmans. Il évoque aussi une réunion de travail de la délégation musulmane avec des membres du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Comment de telles rencontres peuvent-elles s'articuler?
Alors, d'abord, évidemment, le pape parle d'une délégation limitée, parce que nous n'allons pas recevoir 138 personnes, mais ce sera le prince qui est un peu, disons, le coordinateur de cette initiative, qui jugera qui peut venir avec lui. Évidemment, il y aura d'abord une réunion avec le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, et je pense aussi qu'ils sont associés l'Institut pontifical pour les études arabes et également l'Université grégorienne. Donc il y aura, je pense, une sorte de session, et à la suite de laquelle, au terme de laquelle, le Saint-Père recevra, disons, tous ceux qui ont travaillé à cette initiative pour les encourager à poursuivre le dialogue.
Est-ce que vous avez déjà réfléchi un petit peu aux thèmes qui pourraient être abordés lors de cette rencontre, de cette session de travail?
Non, pas encore, non, parce que je pense d'abord il faut voir si le prince accepte cette suggestion, cette proposition. Et une fois qu'il aura accepté, on verra. Mais enfin, je pense qu'il y a des grandes lignes, n'est-ce pas? C'est comme je dis toujours, la connaissance de la religion de l'autre, parce que sans connaître l'autre, il y a toujours des préjugés, toujours des craintes, donc c'est important d'écouter l'autre tel qu'il se présente, n'est-ce pas? Non pas tel que nous le voyons, mais tel qu'il se présente lui-même. Qu'il nous présente sa religion, comment il vit sa foi. Et ensuite, évidemment, je crois qu'il faudra un jour ou l'autre commencer à partager nos idées sur la question des droits de l'homme, qui est un sujet quand même très important, et toujours ce fameux principe de la réciprocité. Ce qui est bon pour les croyants dans un pays doit être également la même chose pour les croyants dans un autre pays. C'est le principe de la réciprocité. De même que les musulmans ont des mosquées pour prier, pour pratiquer leur foi en Europe, ce qui est tout à fait normal. Eh bien, il doit en être de même pour les chrétiens qui vivent dans les pays à majorité islamique, ce que nous réclamons depuis des années et des années.
Dans sa réponse, Benoît XVI insiste beaucoup sur les points communs qu'il y a entre les deux religions, un Dieu unique, un Dieu amour.
Oui, bien ça, vous savez, c'est un patrimoine que nous partageons avec nos frères musulmans, mais également avec les adeptes de la religion hébraïque. Justement, hier soir, j'ai fait une conférence dans les environs de Bologne, et il y avait une table ronde. Il y avait un rabbin qui a justement dit dans son intervention que chrétiens, musulmans et juifs partagent ce respect pour la vie de l'homme, parce que l'homme est créature de Dieu, il est fait à son image. Donc c'est un patrimoine évidemment commun et qui est très important, parce qu'il oriente, je dirais, dans la mesure, le premier droit fondamental de la personne humaine, c'est le droit à la vie, sans lequel évidemment les autres droits n'existent pas.
Le pape a souligné dès le début de cette réponse l'aspect positif du texte, donc des dignitaires musulmans, et l'appel à œuvrer ensemble pour la paix dans le monde. Est-ce que, en quelque sorte, d'une façon indirecte, on peut considérer que c'est évidemment une mise en garde contre la religion qui serait utilisée pour justifier certains actes de violence? Je pense notamment au terrorisme, bien sûr.
Oui, évidemment. La lettre, oui, est un aspect un ton positif dans la mesure où ce n'est pas du tout une lettre polémique. Elle ne se réfère à aucune difficulté du passé. C'est un peu un chapitre nouveau qui s'ouvre. Et évidemment, la violence au nom de la religion est absolument insoutenable, indéfendable. D'ailleurs, le pape l'a très bien condamné dans ce discours au corps diplomatique au début de l'année 2006. Et comme j'ai l'occasion de dire souvent ces temps-ci, il ne faut jamais oublier que les religions ne font pas la guerre, ce sont les hommes qui font la guerre. Les religions ont surtout des messages de paix, et il ne faut pas oublier que la langue de la religion, c'est la prière. Donc je crois qu'on n'a rien à craindre des religions, ce qui évidemment est très dommageable, et quand les adeptes des religions se servent de leur foi pour combattre les autres au nom de Dieu, c'est qui est une absurdité. Dans la mesure où Dieu est le père de tous les hommes, évidemment, il ne peut pas être leur ennemi.
Est-ce que, en quelque sorte, le pape a consulté les autres églises chrétiennes avant d'adresser cette réponse? On sait que les dignitaires musulmans, donc, avaient adressé leurs lettres aux orthodoxes et aux protestants.
Non, il n'y a pas eu de consultation, d'abord parce que ça aurait été très difficile et ça aurait pris beaucoup de temps. Mais quand j'étais à Naples pour la rencontre de Sant'Egidio, j'ai eu l'occasion de parler avec l'archevêque de Canterbury et avec le patriarche Bartholomeus. Et je sais que les deux ont déjà répondu de leur côté, donc je crois que chacun répondra un peu à sa manière.
Cette lettre des dignitaires musulmans, cette réponse du pape, est-ce que l'on peut considérer qu'elles ouvrent une nouvelle ère dans les relations entre chrétiens et musulmans?
Eh bien, je crois qu'effectivement, c'est un chapitre nouveau. Alors évidemment, tout n'est pas résolu. Je crois que ce qui serait dommageable, c'est de penser, quand on lit cette lettre, la réponse du pape, de dire, eh bien, finalement, il n'y a plus de problème. Non, je pense que les problèmes existent. Il y a d'ailleurs toujours un peu d'ambiguïté quand on se livre à ce genre d'exercice. Ce qui est important, surtout, c'est d'éviter le relativisme. Dire, dans le fond, ben, toutes les religions se valent, c'est le même Dieu. Non, ce que nous disons, c'est que tous les chercheurs de Dieu ont la même dignité. Voilà, c'est ça le sens du dialogue interreligieux.
Enfin, une dernière question. Beaucoup s'accordent à dire que cette réponse s'est faite attendre. Qu'est-ce qui pourrait expliquer un petit peu ce temps, un peu plus d'un mois avant de répondre aux dignitaires musulmans?
Je ne dirais pas que cette lettre s'est faite attendre, parce que quand on pense, j'ai su que cette lettre a été le fruit d'une préparation très soignée de la part de nos amis musulmans. Donc je crois que ça aurait été un peu léger si du jour au lendemain on avait été répondu à une lettre aussi articulée. Donc je crois que le pape a voulu prendre le temps d'étudier la lettre, ses collaborateurs l'ont fait aussi, ici nous l'avons fait aussi. Donc je crois que c'est une réponse rapide. Il faut considérer la masse de documents qui sont sur la table du pape, donc je crois qu'il ne faut pas avoir, disons, cette obsession de la rapidité.
Je vous remercie infiniment. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose par rapport à cette réponse?
Ben, je dirais que ce qui m'a, en parlant avec les uns et les autres ces jours derniers, c'est ce qui est impressionnant, c'est que tout le monde attendait cette réponse, tout le monde la voulait. Donc ça veut dire on sent très bien que c'est peut-être cette évolution est vraiment providentielle, dans la mesure où on se rend bien compte que on ne peut pas s'ignorer quand on est croyant, on ne peut pas s'ignorer les uns les autres. Et il faut essayer de faire une partie de la route ensemble sous le regard de Dieu, parce que nous sommes fils d'un même Père. Donc si Dieu a un projet, ce projet, c'est que l'humanité soit une seule et même famille.
Le pape vient donc de répondre à cette lettre des dignitaires musulmans. Cette lettre était donc une initiative faite par les musulmans. Généralement, les initiatives venaient plutôt du côté des chrétiens.
Oui, habituellement, dans le dialogue interreligieux, on peut dire que la plupart du temps, ce sont les chrétiens qui font le premier pas. Là, au contraire, ce sont les musulmans qui ont pris l'initiative, et c'est important, ce sont eux qui sont disons, les premiers protagonistes. Et ensuite, ce qui est nouveau, des spécialistes de l'islamologie me l'ont confirmé, c'est que pour la première fois, peut-être, lorsque la lettre parle de Jésus, et que la lettre cite l'Écriture sainte, eh bien, on ne cite pas le Jésus à partir du Coran, mais à partir de notre Bible. Donc ça, c'est une marque de grand respect et quelque chose de nouveau, incontestablement.
Cette lettre des musulmans, cette réponse du pape, est-ce que ces dernières années, il y a eu des gestes semblables aussi forts?
Je crois que dans l'histoire de ces dernières années, le grand événement a été la visite du pape Jean-Paul II au Maroc, lorsqu'il a rencontré la jeunesse en 1984, si je ne m'abuse. Je crois que c'est à ce niveau-là que se situe cet échange de correspondance d'aujourd'hui.
En quelque sorte, Benoît XVI est dans le prolongement d'un travail qui a été initié, même si certains
Oui.
auraient tendance à dire qu'il y a eu un changement dans cette ligne. On peut parler d'une certaine façon d'un prolongement?
Oui, moi, personnellement, je ne vois pas de rupture entre le pontificat précédent et le pontificat actuel. D'ailleurs, le cardinal Ratzinger était un des principaux conseillers du pape, donc je crois que c'est tout à fait naturel que le pape Benoît XVI continue dans la ligne du pape, surtout, comme il l'a dit, fasse fructifier ce grand patrimoine doctrinal, et spirituel et pastoral que nous a légué le pape Jean-Paul II.
Le dialogue interreligieux, c'est un des dossiers, un des chantiers les plus importants de ces prochaines années.
Ah, je pense, quand on voit un peu l'ensemble des interventions publiques du pape, il est sûr que l'œcuménisme et le dialogue interreligieux sont des priorités, comme dans le domaine diplomatique, le Moyen-Orient et les relations avec la Chine le sont.